Pour préparer notre suite d'émissions sur l'espace, on n'a pas fini de graviter entre la course à la Lune et maintenant. Et on a de la chance, des gens qui construisent et envoient des satellites, on en connaît quelques-uns. Nous recevons par satellite depuis Francfort et non pas depuis Toulouse, Red Boomgar, data scientist à l'Agence spatiale européenne, membre de la Libre Space Foundation, roboticien et ailleurs in the saucisse, vous irez chercher sur le site pour l'explication de l'acronyme.
CPU, carré petit utile.
Red, comment es-tu venu au spatial ?
La question, tu sais, qui commence par quand j'étais petit, je rêvais d'être astronaute.
Ah, c'est une question de l'espace, hein, c'était obligé.
Mais je pense que il y a ce moment quand on est lycéen où on va aller à l'université, puis on va un peu perdre de vue nos amis de l'école, hein, parce que chacun suit sa voie. Mais je me rappelle toujours avoir promis à un ami que je mettrais des 0 et des 1 sur un satellite dans l'espace. Et c'est ce genre de promesse que j'avais tenu et j'essaie de tenir aussi dans mes premiers contrats que j'ai eu en entreprise à Toulouse d'ailleurs. Et je pense que c'est une motivation. C'est une motivation. J'ai envie de faire des choses pour l'espace. Donc du logiciel pour l'espace.
Et donc, tu es passé de Toulouse à Francfort. C'est indiscret de savoir quelle est la différence. Il y a plus de choses intéressantes à Francfort. Il y a un meilleur bassin d'emploi où les projets sont plus intéressants. Où il y a le siège de l'ESA.
Bon, voilà. Bon, moi, tout simplement, il y avait une opportunité de travailler à l'ESA, donc à Francfort, à côté de Francfort, une ville qui s'appelle Darmstadt, qui veut dire la ville des intestins. Je pense que c'est pas loin de la ville de la saucisse. Voilà. Je pense qu'il devait y avoir un lien industriel par le passé, j'en sais rien. Mais c'est là où, historiquement, il y a les télécoms allemands qui se sont installés, et du coup, le centre spatial aussi, qui s'est développé ici. Et donc, l'ESA, c'est plusieurs centres à travers toute l'Europe. Le plus important, c'est celui qui est en Hollande, le centre de recherche. Il y en a un autre assez important aussi sur l'astronomie en Espagne, et un autre sur les applications spatiales au UK, le QG à Paris et les opérations spatiales à Francfort, là où on a les pilotes de satellites. J'ai eu un postdoc ici pour 3 ans en data science.
On entame un sujet qui est donc un tout petit cube. Alors, qu'est-ce qu'un CubeSat ?
Ah, CubeSat, donc en gros, bah, c'est un mini satellite de 10 cm de côté, donc un mini cube qui fait 10 cm de côté, dans lequel on retrouve la plupart des sous-systèmes d'un satellite.
Et c'est donc 10 cm de côté, mais c'est vraiment tout petit. On arrive vraiment à mettre tout. On peut déployer les éléments. Est-ce qu'on peut
C'est vrai que c'est petit. Donc en général, les missions qui veulent vraiment faire quelque chose, elles assemblent plusieurs cubes les uns à la suite des autres, ou les uns à côté des autres.
Ça s'assemble comme des Lego, quoi, vraiment.
Presque. C'est un peu plus compliqué, mais c'est presque ça.
Et donc on en parle comme d'un nanosatellite, mais c'est par rapport à quelle dimension, par rapport à l'échelle
Ouais. C'est assez dur à dire. En nanosatellite, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent à tort, à travers, mais peu importe. Je pense que c'est utilisé pour dire le satellite qui n'est pas construit par une grande société privée ou un consortium privé, quoique maintenant ils s'y mettent. Mais ça fait surtout référence au poids du satellite. Donc nanosatellite, c'est tout ce qui est entre 1 et 10 kilos. Et après, tout ce qui est mini, micro, nano, pico, femto, atto et même zepto, moins de 1 gramme, ouais, ça existe. Toute cette catégorie fait moins de 500 kilos.
C'est quoi les satellites de moins de 1 gramme? Attends, si je me souviens bien, il y avait les Américains qui avaient tenté de brouiller les radars soviétiques en déployant un nuage d'aiguilles, et ça a été une vraie catastrophe, et c'est toujours une vraie catastrophe d'ailleurs.
C'est ce genre de truc. Alors en général, sur quelque chose d'aussi petit, ça tient sur une pièce de monnaie, mais ça va être plastifié. Il y a juste quelques petits câbles dedans. En gros, c'est un capteur et un émetteur. Donc, c'est pas vraiment pour être commandé. C'est juste, comme tu l'as dit, tu lances un nuage de capteurs pour étudier quelque chose, donc, ou pour brouiller tes amis qui jouent avec toi sur la planète Terre. Voilà.
Et un satellite conventionnel, hein, les satellites dont on parle qui sont balancés dans l'espace, en général, les satellites météo ou de communication, ça pèse combien ?
Ça varie, hein. Ça peut faire plusieurs tonnes. Sachant que si vous avez la chance de venir à Darmstadt, une ville merveilleuse, celle des intestins, vous pourrez visiter l'ESOC, donc le centre des opérations, mais en face on a EUMETSAT, donc c'est le centre européen de gestion des données météo et des satellites météo, et là-bas sont exposés vraiment à l'échelle 1 ou même 1,5 certains satellites météo, et ce sont vraiment les plus gros. Ils sont vraiment énormes. Je me souviens quand je suis arrivé à Darmstadt, j'en ai vu l'un d'eux. Je me suis dit, celui-là, il est plus grand que ma chambre, mais même en volume. Hein, c'est...
Ah ouais. Ah ouais, ça doit être absolument immense. Combien coûte un CubeSat et combien coûte surtout par rapport à un satellite conventionnel?
Un satellite conventionnel, donc ça peut varier. Hein, en général, c'est plusieurs millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros, jusqu'à 100 millions d'euros, même voire plus. Et ça dépend vraiment de ce qui va se passer dedans, qui est candidate à le construire. En fonction des sociétés, ça coûte plus ou moins cher. Et en gros, les agences prennent des assurances aussi. Le lancement aussi peut rentrer en ligne de compte. C'est ça qui coûte le plus cher au final. Mais un CubeSat, en règle générale, c'est pas très cher. D'où aussi leur popularité. Donc, si on compte juste le matos... je vais prendre l'exemple de UPSAT, UPSAT, qui est le satellite de l'université de Patras en Grèce. C'est le premier satellite complètement open source que la Libre Space Foundation a construit de A à Z. Et ce satellite a coûté, juste pour le matériel, environ 30 000 euros. Et je me rappelle qu'au premier Open Source CubeSat Workshop en 2017, la fondation Libre Space a dit que ça coûtait 30 000 euros et qu'en main d'œuvre, ils estimaient que c'était à peu près un peu plus de 100 000 euros. Donc en tout, on a pour 150 000 euros matériel et main d'œuvre, construction, test, validation. Voilà. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a beaucoup de validation à faire sur ce genre de matériel. Parce que ça va dans l'espace, ça va dans des lanceurs... Il faut faire attention.
Si je veux m'en acheter un, ça se trouve où? Ouais, j'aimerais m'en acheter un en fait pour frimer, ah ouais. Me payer un avant que Robert Ménard ne lance la Space Force Police de Béziers, quoi.
Ouais, je comprends. Ouais. Non, mais tu peux aller sur Internet, donc il y a des sites. Tu peux commander presque comme sur n'importe quel site marchand. Et c'est pas vraiment une blague. Il y a des sociétés maintenant qui te fournissent les satellites clés en main et même un système d'opération. Sachant que les gens pensent souvent à combien coûte le satellite, mais ce qui va te coûter le plus après, c'est les opérations. Donc des gens qui vont être là pour opérer le satellite. Tu peux commander ton satellite en ligne. Il y a certaines compagnies qui font ça, des compagnies privées. Pour l'instant, mais tu peux aussi commander ton lancement. Donc, il y a aussi des sites qui prennent des commandes de lancement.
Ouais, et puis, j'espère que c'est pas genre DHL ou Chronopost. C'est trop. Juste expédier la vie de passage. Ce serait un peu dommage. Ouais. Et d'ailleurs, à une autre échelle, je crois qu'Airbus maintenant ils ont ouvert une unité de fabrication, je crois aux États-Unis, où ils fabriquent un satellite par jour. Là, on n'est pas dans le CubeSat, ouais. On est dans le gros. Les prix chutent. De ce côté-là,
je vois pas encore l'impact sur le reste des satellites, mais c'est vrai que ça fait un moment déjà que Airbus, par exemple, ils ont un bus, ce que j'appelle un bus, c'est vraiment le squelette du satellite qu'ils réutilisent, donc Mars Express, Rosetta qui allait sur la comète, ils ont Venus Express aussi qui avait commencé, ils ont les mêmes bus, enfin c'est la même carlingue, on va dire. Mais donc il y a un autre projet donc qui s'appelle OneWeb et je pense que tu parles de celui-là qui a été créé pour justement réduire le coût de la supply chain, donc ils ont vraiment optimisé la supply chain pour produire un satellite par jour.
Qu'est-ce qu'on fait avec un CubeSat?
Alors ça c'est une bonne question. C'est une question qui revient souvent, mais ok, je fais mon CubeSat. Tu veux commander ton CubeSat, mais qu'est-ce que tu veux faire? Frimer? Qu'est-ce que tu veux avoir? Une app sur ton téléphone qui te dit où tu es? Il y a l'autre à côté, il va dire bah moi aussi j'ai le GPS.
Oui, c'est un peu con, oui.
Je me souviens en 2017. Je sais plus quand c'était exactement, fin 2016, je suis allé au Japon, j'ai rencontré l'équipe SmallSat du Japon à l'université de Tokyo, et eux ce qu'ils faisaient avec un des premiers CubeSats qu'ils ont eu, donc c'est un CubeSat sponsorisé par Hello Kitty, c'est qu'ils avaient dans le CubeSat une petite fenêtre qui regardait vers l'espace. Et à côté de la petite fenêtre, donc il y a un Hello Kitty, donc qui est pas n'importe lequel Hello Kitty, avec un petit écran digital où t'as des petits messages qui peuvent passer taille SMS, taille Twitter si tu veux. Et du coup, c'était un satellite sponsorisé pour que tout le monde puisse envoyer son message via Twitter et le faire apparaître dans l'espace.
Ah, mais c'est marrant, donc, moi, comme idée. Ouais, c'est pas très scientifiquement ou technologiquement utile, mais au moins, c'est rigolo. Quoi.
Ouais, à côté de ça, évidemment, le satellite, il embarque des capteurs, il fait un autre travail. Mais j'ai trouvé ça rigolo, enfin, notamment aussi curieux, parce qu'ils ont vraiment insisté sur la petite statue Hello Kitty qui était dedans, la peinture qui était dessus, elle est spéciale, parce que quand t'es dans l'espace...
Ouais, il faut que ça tienne, oui.
Il faut que ça tienne, voilà, faut que la peinture elle tienne, donc il y a des peintures avec un peu de gaz dedans, celles-là elles vont pas tenir, ça va faire des bulles, ça va partir... C'est pas possible. Du coup, voilà, il y avait un peu de recherche sur comment faire une figurine peinte dans l'espace. Donc, si tu veux en mettre une autre, tu peux les contacter, ils savent déjà comment faire.
Ça, c'est marrant comme idée.
Plus sérieusement, en règle générale, donc, le CubeSat, c'est fait pour apprendre. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Donc, c'est fait pour apprendre. Donc, en général, il y a tous les sous-systèmes d'un gros satellite. Donc les étudiants qui vont créer un CubeSat, en général c'est des étudiants qui créent des CubeSat, ils vont apprendre à commander, à créer, construire, commander un mini satellite. Donc et pour faire ça, il faut communiquer avec le satellite. Donc un des sous-systèmes importants, pas forcément vital, hein, mais important si tu veux savoir ce que fait ton satellite, c'est la communication. Donc les radios. Donc, si tu veux faire ton ping à moncubesat.proxy.space, il faut que ton satellite puisse communiquer. Donc, la com, donc il y a beaucoup de satellites qui sont utilisés juste pour la com, pour relayer des messages sur toute la planète ou ce genre de choses. D'ailleurs, le satellite dont tu parlais en intro, AMSAT, donc c'est un club d'amateurs radio, et c'est eux qui le maintiennent. Après, il y a pas mal d'applications scientifiques, d'observation de la Terre, parce que les CubeSat, c'est plus facile à envoyer autour de la Terre qu'autour de Mars ou autre pour l'instant. Et donc, on va retrouver des caméras, des capteurs de particules ou des magnétomètres, ce genre de choses. Il y a un projet, là, le QB50, projet international, européen surtout, où il y a 50 CubeSat qui se suivent pour étudier la, je sais plus ce que c'est, troposphère. Troposphère entre 35 et
50
et 400-500 kilomètres. Ouais. À la queue leu leu. Et du coup, le CubeSat que j'ai mentionné plus tôt, UPSAT, UPSAT, c'est fait partie de ce train de satellites. Et donc c'est sympa. Donc t'en as beaucoup qui sont utilisés aussi comme démonstrateurs. Donc comme ça coûte pas cher et que ça évite de se planter sur une mission de plus de 10 millions d'euros. En général, tu es prêt à dépenser 200K quand tu peux dépenser 10 millions, 200 kilos euros pour faire un petit démonstrateur et démontrer qu'une techno fonctionne dans l'espace. Voilà.
Effectivement, oui, ça sert vraiment de labo, quoi. Quelle est l'origine en fait du concept CubeSat? Comment il s'est décidé, le nom, la forme et tout le reste,
hein? Bah, ça, je ne saurais pas te dire exactement, mais... de voir les gens interagir et créer des CubeSat, des systèmes pour CubeSat dans l'open source, je vois que ça se fait naturellement. Mais initialement, c'est deux professeurs de deux universités américaines. Donc en 99, t'as California Polytechnic State University et Stanford University qui ont proposé une sorte de design en forme de cube. Mais c'était essentiellement pour que les étudiants sachent comment construire un satellite, comme je te disais, sans vraiment avoir la prétention d'en faire un standard. Mais c'est de fil en aiguille que ben ça a plu, c'était pratique, les étudiants étaient motivés, du coup ils l'ont refait. Et au bout d'un moment, bah ben, pourquoi pas le lancer, hein, au final. Et puis c'est parti. À partir de là, comme c'est parti d'une université, l'université elle publie le savoir en quelque sorte. Et je pense que c'est ça qui a plu, c'est partager le savoir. Et c'est pour ça que je pense que ça prend énormément d'ampleur via l'open source. Et que même les sociétés qui développent des business propriétaires dessus, elles utilisent beaucoup l'open source pour faire ça.
Depuis combien de temps on a commencé à fabriquer des CubeSat?
Bah, je pense que si c'est, ça devait être en 99, donc qui avait le premier CubeSat, mais je suis pas sûr qu'avant il n'y ait pas eu d'autres personnes qui aient eu la même idée. Mmh. Mais ça s'est juste pas vu. Mais je pense que ouais, dans les années 90.
D'accord. Ouais. Et actuellement, on a une idée du nombre de ces objets à ce format-là qui sont en orbite?
Oui, il y en a à peu près 2000, un peu plus de 2000. Sur le site nanosats.eu, il y a des stats plus détaillées. Le problème qu'on avait vu avec Arthur Scholz, un collègue au centre des opérations, c'est que la moitié de ces satellites tombent en rade dès l'arrivée en orbite.
Ah ouais, il y a un tel taux de déchets
Ouais, c'est le problème. Ouais, ouais. C'est... Alors, tu l'as dit, la déchet, là, c'est le mot-clé, là.
Mais c'est-à-dire un manque de supervision ou c'est vraiment qualité de fabrication
Ouais, il y a un peu de tout. Hein. Quand tu fais un satellite, tu te dis, ben, dans l'espace, c'est tranquille, c'est en orbite, tu flottes. Sauf que pour arriver là-bas, ben, faut subir les vibrations du lanceur, l'accélération, etc. Donc, tes petits connecteurs que tu fais au sol, tu as essayé de les tester dans ton mille-check, ça marche plus dans le lanceur. Donc, il y a des trucs qui se déconnectent, il y a des trucs qui marchent plus, il y a de l'électronique qui grille, il y a des satellites. Je pense qu'il y a, je sais plus si c'est un quart des satellites qui est vraiment opéré au final. Il y en avait une bonne moitié qui arrive en orbite dans laquelle on pouvait communiquer avec, un petit ping, et qui meurt peu après. Et il y en a beaucoup qui arrivent, la moitié de ceux-là, qui arrivent en orbite, mais avec lesquels on n'a jamais pu échanger un message, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Quoi. Ils sont juste, on a juste lâché un cube de déchets dans l'espace.
Oh là là. Ouais. Le projet CubeSat donc, est open source, c'est de l'open source matériel. Ouais. Donc je suppose qu'il y a eu des implémentations propriétaires, il y a des plateformes qui sont vendues à cette dimension-là.
Ouais. Je ne sais pas si je peux les citer.
Oh, tu peux, hein.
Donc il y a Planet Labs qui fait un carton sur l'observation de la Terre, qui crée leur satellite aussi, donc c'est plutôt propriétaire. GomSpace aussi qui fait ça, donc des sites où tu peux aller pour t'acheter ton satellite si t'es pas pro open source, c'est là-dessus. Mais il y a d'autres sociétés donc qui proposent des frameworks de développement comme OpenCosmos, et là c'est basé sur l'open source et c'est open source. Leur suite de logiciels est open source. CubeOS aussi pour tout ce qui est opération. Il y a beaucoup d'acteurs open source et je trouve qu'ils sont très forts aussi. C'est juste un différent business model.
Est-ce que les utilisateurs de ce framework jouent le jeu et reversent à la communauté les schémas techniques, les logiciels, voire est-ce qu'il y a un Hall of Fame des contributeurs?
Bah, je pense que la Libre Space Foundation, elle est là pour un peu mener la danse dans tout ça et promouvoir ces gens qui contribuent énormément. On a beaucoup de gens qui contribuent sur tout ce qui est SDR, donc Software Defined Radio. Le motto de la Libre Space Foundation, c'est Claim Space the Libre Way. Donc c'est vraiment s'approprier l'espace de façon open source. Et le but, comme tu as vu, il y a la moitié des satellites, c'est des déchets. Le but, c'est vraiment d'éviter ça. Donc, quand tu as une université au Vietnam qui crée un satellite qui a marché et une autre aux États-Unis qui crée le même mais qui n'a pas marché, on se dit, bon, il y a un problème. Vous êtes arrivé après, vous n'avez pas regardé ce qui s'était passé, il n'y a pas de lessons learned. Tu sais comment tu dis ça en français?
Oui, que vous avez mal révisé vos cours, quoi.
Ouais, voilà. Et donc, dans tout cet écosystème, même si c'est des sociétés privées ou des universités, etc., tu retrouveras la Libre Space, des gens qui contribuent aux outils de la Libre Space Foundation. Pour la petite histoire, quand même un des projets qui s'appelle SatNogs, qui rassemble le plus gros réseau de données satellites au monde. Je pense que je peux dire ça. J'ai pas regardé le nombre de satellites là, mais ils ont une base de données sur laquelle t'as énormément de données satellites. Et pourquoi c'est aussi gros? C'est parce qu'ils ont fait une station sol open source. Donc tu peux aller sur LibreSpace dans le projet SatNogs, télécharger les blueprints d'impression 3D pour faire ton petit mât, tes accroches moteurs, etc., récupérer le matériel, l'assembler et mettre le logiciel pour avoir une antenne qui s'oriente automatiquement, capte un satellite, etc. Donc tu peux même commander à distance le réseau d'antennes de, qui sont dans les jardins de certaines personnes.
Ah, c'est cool, c'est ça. Comme... Ouais, c'est cool. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Red Bungar, ex-data scientist à l'Agence Spatiale Européenne, pour parler des CubeSats. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel dedans ?
Alors, dans un satellite, bah, y a un peu de tout. Y a, donc, t'as la gestion de l'énergie, déjà, de l'énergie électrique, gestion de la prise d'énergie, donc les panneaux solaires. Tu vas avoir la gestion de la radio, donc il y a des émetteurs et récepteurs radio, il y a des antennes et tout ça. Et puis, il va y avoir de la gestion de payload, donc ce qui va servir à faire ta mission, donc des caméras ou des capteurs en tout genre. En gros, c'est ce que tu vas avoir. Donc, et un des sous-systèmes aussi important, c'est ben la gestion de l'attitude. L'attitude, alors c'est pas genre est-ce que mon satellite est content ou pas. Hein, c'est plutôt comment il est orienté. Donc, est-ce qu'il regarde le sol ou est-ce qu'il regarde les étoiles. Donc, tout un système qui te gère ça.
Si on dit que ça fait la plateforme minimale, ça laisse quelle place finalement pour le payload, pour la mission elle-même?
Alors, dans 10 cm de côté dans un cube, pas grand-chose. Hein, mais c'est pour ça qu'il y a des caméras qui tiennent sur une petite carte électronique qui fait à peu près 3 pièces de 2 euros de long et en épaisseur à peu près de 2 pièces de 2 euros dans lesquelles tu as une caméra, gestion vidéo, etc. Mais il y a un peu de tout. Donc, sachant qu'un CubeSat, donc... Enfin, la plupart des CubeSats ne s'orientent pas tout seuls, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'actuateur, ils n'ont pas de propulseur, etc. Bien qu'il y ait des propulseurs pour CubeSat, mais il faut vraiment rajouter un autre cube, un deuxième cube pour vraiment avoir tout ce qu'il faut.
Comment on l'alimente ? C'est des batteries de portables, de voitures, c'est des panneaux solaires, de l'éolien, du nucléaire ?
c'est une bonne question, mais alors je ne saurais pas vraiment te répondre sur la techno des batteries. Donc c'est des batteries rechargeables qui se rechargent grâce aux panneaux solaires. Donc tout passe par les batteries, mais les panneaux solaires vont recharger les batteries en permanence dès qu'ils sont ensoleillés. Mais je ne saurais pas te dire la techno exacte de la batterie, je pense qu'il y en a différentes.
Quel logiciel va dessus ? Est-ce qu'on met une distribution Linux ou parce que ils ne sont pas spécialement développeurs, ceux qui veulent lancer des satellites, donc on met du Scratch, comme ça ils se démerdent avec ?
Il y en a qui ont essayé.
Ils ont eu des problèmes, d'accord.
Il y a un peu de tout. Hein. Je pense qu'il y a des satellites Arduino, tu as des satellites qui sont faits avec des smartphones, donc tu as Android qui tourne dessus. Moi, je sais qu'il y a la mission Move2, ils ont Linux embarqué, donc ils font un SSH sur leur satellite carrément. Il y a de tout, du logiciel de l'operating system fait maison à vraiment bah, Linux, mais en majeure partie c'est Linux embarqué. C'est tout un univers. Hein.
À cause du bombardement électromagnétique, bon, je suppose que quand même le matériel électronique est vraiment soumis à de très très fortes contraintes. Est-ce qu'il faut prévoir une programmation spécifique dans ce cas-là pour pouvoir y pallier ou tout passe par les solutions hardware ?
Alors, pour les bombardements, on a des accords intergalactiques, donc on les évite pour les 50 prochaines années. J'aime bien le terme bombardement.
Ça vole pas. Ça vole
pas. En règle générale, donc, les CubeSats sont envoyés en orbite assez basse, au final, donc c'est sous la protection électromagnétique de la Terre. Au passage des pôles, on va croiser ces lignes magnétiques, donc on risque toujours d'avoir des électrons ou des particules chargées. Il n'y a pas vraiment de manière de programmer spécifique. C'est surtout bas niveau sur la gestion de la mémoire, donc avoir de la redondance sur la mémoire vive, hein, j'entends aussi. Parce que des fois il y a des bits qui vont flipper et on va pas savoir ce qui se passe. Donc c'est surtout bas niveau. Ouais. À haut niveau, quand tu manages tes images, ce genre de choses, tu t'en soucies peu.
Quel est le taux de panne de ces engins ? Tu as dit tout à l'heure donc il y a même pas un quart qui arrivait à faire sa mission.
Ouais, alors j'espère que ça a changé, mais je pense que c'est un demi à peu près, donc 1 sur 2. Mais si tu veux être le bon 1 sur 2, il faut coopérer. Il faut vraiment coopérer avec les communautés open source, c'est le mieux à faire.
Mmh. Ouais. Pour être sûr du coup, et là pour, c'est surtout les choix au niveau matériel et fabrication, quoi.
Voilà, matériel, fabrication, c'est de la gestion aussi, comment tu fais un système embarqué, comment il va réagir à ce qui se passe, sa capacité à être autonome. C'est-à-dire qu'il y a des satellites, ils savent que ben ils ont plus la com et ils ont plus ça, ils vont se mettre en safe mode et puis ils vont espérer pointer vers la Terre pour espérer recommuniquer avec toi. Mais ça, il faut qu'ils le fassent tout seuls. Donc ça peut être compliqué, mais il y a tellement de variables que tout peut arriver.
Comment reçoit-on les données des CubeSats? Il faut louer des antennes auprès des gros opérateurs comme la NASA ou l'ESA, ou bien on peut le faire de chez soi
Ah, je vois ta question. Donc, ça dépend de la mission, ça dépend de comment elle est organisée. Donc, si tu as des partenaires comme l'ESA, ils vont certainement te proposer quelques milliers de milliers d'euros des bandes passantes de la bande pour sur leurs grosses antennes. Mais si tu as un CubeSat qui se connecte sur des bandes classiques, tu peux aussi faire partie du réseau SatNOX, donc le réseau de la Libre Space Foundation. Dont je parlais un peu plus tôt, où chacun peut construire sa propre station sol. Donc il y a quand même plus de 600 stations sol autour du monde. Donc c'est plus que l'ESA, c'est plus que la NASA au final. Mais c'est des petites stations, hein, donc il faut vraiment que le satellite soit en orbite terrestre. Tu vas pas vraiment communiquer avec Mars avec ça. Mais c'est comme un accord. Tu rentres sur le réseau et il y a plein de satellites qui sont pas vraiment en accord, c'est-à-dire ils ont pas prévu d'être écoutés par le réseau SatNOX, mais ils ont mis leur feuille de leur spec radio en libre sur Internet, et du coup ben le réseau SatNOX, il y a plein de gens qui récoltent ces feuilles et qui les mettent en pratique sur le réseau. Donc comme maintenant on a du hardware qui est programmable pour les radios. C'est très facile de changer de bande, de s'adapter au satellite pour récupérer ces données.
Bah, 10 cm quand même, ça fait court. Ça fait que l'on n'a que des longueurs d'onde qui sont inférieures à 20 ou 30 cm, si je me trompe. On peut s'amuser à déployer une antenne quand même pour avoir des plus grandes ondes, ou ça passe pas.
Non, il y a des antennes qui sont déployées. Chaque satellite a une antenne qui est déployée. Donc ça va de... Tu sais, c'est le mètre, ton double mètre là pour ton double mètre pour mesurer tes meubles IKEA. il est en métal. Il y en a pas mal qui l'utilisent, donc il est.
Ah donc c'est plié sous la contre, c'est enroulé au moment où où le truc est éjecté.
Exactement,
là.
Ça se déploie et sting. Et c'est un truc, c'est une antenne en métal, quoi. Donc c'est conducteur, c'est parfait.
Enfin, c'est pas cool si tu es en même temps qu'un autre CubeSat et que tu le frappes direct dans le capteur.
Ouais, en général, tu te croises à plus de plusieurs kilomètres par seconde, donc il vaut mieux pas de cette manière.
Comment arrive-t-on à leur émettre des informations? Est-ce qu'il faut une fréquence spécifique? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut une autorisation spécifique d'émettre?
Oui, donc c'est très régulé, donc il faut sa licence de radio amateur au moins. Mais pour l'espace, oui, il y a beaucoup de régulations, donc pour pas marcher sur les plates-bandes d'autres satellites et les gêner. Donc il faut une licence et il faut savoir sur quelle bande émettre. Donc en général, il y a deux grandes catégories de bandes, S-band et X-band. S-band c'est plutôt, si je me trompe pas, de 2,4 GHz, et X-band c'est beaucoup plus. L'un utilisé pour la télémétrie, donc envoyer les commandes, télémétrie and command, et l'autre plus pour les données, genre les images ou tes données scientifiques. Qui sont un peu plus grosses.
Vu qu'on lance des constellations maintenant pour assurer la connectivité partout sur Terre avec des satellites, est-ce qu'il y a aussi des réseaux? Est-ce qu'il y a du roaming dans l'espace?
Il y a plein de projets comme ça où il y a les satellites d'Eutelsat, par exemple, Donc c'est la télé par satellite, si tu veux, mais ça tombe. C'est moins utilisé parce qu'on a Internet partout dans le monde maintenant avec la fibre optique pratiquement. Donc les gens, ils ont la télé via leur box Internet. Du coup, le satellite, c'est un peu moins utilisé. Du coup, l'utilisation de ces satellites, elle est un peu peut-être redirigée vers des stations dans l'espace au final. Donc imagine ton satellite, au lieu de pointer vers la Terre pour communiquer, il pointe vers un satellite qui est en orbite géostationnaire derrière lui pour envoyer l'info de l'autre côté de la planète, ce qui peut être pratique. Parce que sachant que ton satellite, ton CubeSat, va voir au sol qu'une petite partie de la planète. Donc il va pas pouvoir communiquer de n'importe où avec l'Australie, par exemple. Il faut vraiment qu'il soit au-dessus de l'Australie pour communiquer avec l'Australie.
Éventuellement, je peux mettre une puce SIM et me servir du réseau téléphonique genre Iridium ou ce genre de truc.
Oui, tu pourrais.
Ça a été fait pour déconner ou non?
Je pense certainement. Je dis plus, là, c'est la règle 34 d'Internet, là. Si tu penses, il y a quelqu'un qui l'a fait sur Internet.
Oui, c'est vrai. Peut-on faire directement du déploiement logiciel vers son CubeSat?
Ouais, c'est fait ça. Je crois que je prends encore l'exemple de la mission Move 2, université allemande. Ils font ça, mais la référence dans ça, je crois que ça va être la mission OpsSat. Alors, je sais même pas si elle a été lancée, je crois que ça devait être en fin d'année. En fin de cette année, oui, elle n'a pas encore été lancée. La mission OpsSat, ou Ops comme opération et Sat comme satellite, c'est une mission de l'ESA, où c'est un CubeSat 3 unités, donc c'est 3 cubes l'un derrière l'autre. Et dedans, il y a 4 systèmes redondants où tu peux changer jusqu'à tout l'operating system. Ouais. Je pense que ça va te plaire. Et c'est vraiment fait pour être un démonstrateur, donc vraiment pour changer même le système d'attitude, pour changer des trucs, des logiciels clés d'une mission satellite qui ne sont jamais changés, sur lesquels on n'a pas envie de les changer parce que on sait que ça marchait avant et on va pas vraiment les changer. Et ce démonstrateur, il va vraiment être utile pour renouveler tout l'écosystème logiciel des satellites.
Et si on brique son cube, comment peut-on tenter de le récupérer?
Est-ce qu'on demande à un
spationaute, vous pouvez essayer de me le récupérer et appuyer sur le bouton sur le côté pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote?
C'est pour ça que j'ai encore un métier. Là. Les data science au sol, donc pour essayer de savoir ce qui se passe en étudiant les données de télémétrie. J'ai un projet open source qui est en train de tourner grâce au Google Summer of Code et au ESA Summer of Code aussi, qui s'appelle Polaris, qui fait partie de la Libre Space Foundation aussi. Mais le problème, c'est que les satellites qui sont pas faits avec de la redondance système bas niveau comme ça, et en général aucun est fait avec une redondance système comme ça, donc si tu arrives à briquer ton operating system, ce qui peut se faire dans certains cas, et si tu te plantes, t'as perdu le satellite, donc tout simplement. Donc il y a pas encore le garagiste service depuis la station spatiale où t'as un astronaute qui va s'envoler chercher ton CubeSat avec des jumelles parce que c'est grand quand même. Oui, essayer de le rattraper avec son jetpack.
Ou avec une épuisette, mais alors très longue l'épuisette, hein. Et solide.
L'épuisette, c'est un projet de récupération de déchets des Japonais. Faut pas rigoler. Quand t'es dans l'espace, faut pas rigoler. Tout existe.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Red Boomgar, ex-data scientist à l'Agence spatiale européenne, pour parler des CubeSat. Comment envoie-t-on ces cubes? On fait du stop ou on sert de bourrage en fond de cale pour un satellite plus gros?
C'est une bonne question. Donc, il y en a qui s'entraînent au lancer de javelot.
Lancer de poids, celle-là. La blague est lourde.
La blague est lourde. Non, mais on fait plus ou moins du stop au final. Donc, en général, si tu regardes la majeure partie des missions CubeSat, c'est des CubeSat universitaires. Donc, université, c'est avec une nation qui a un accord avec leur agence nationale ou leur agence fédérale. Et l'agence fédérale va toujours prévoir un lancer de CubeSat en partenariat ou en fond de cale, comme tu dis, d'un satellite plus gros. Donc on va avoir, c'est vraiment comme des poissons pilotes, hein. Tu vas avoir le requin, donc le gros satellite d'observation de la Terre qui va partir, et derrière lui une cinquantaine de CubeSat ou une trentaine de CubeSat qui va partir dans un rack. Donc soit ça va être lancé depuis ce troisième étage d'une fusée, ou ça va être emmené sur la station spatiale et lancé depuis la station spatiale. Ouais, tout est possible.
Hey Yuri, pendant que tu fais ton EVA, tu balances ça. Ok, dans quelle direction?
C'est un peu ça, ouais. Non mais quand tu regardes, moi j'étais au lancement, à la rediffusion au CNES, c'était à 3h du mat, je crois que dans les satellites Pléiade du CNES, donc c'est le satellite français d'observation de la Terre. Et il y avait d'autres trois mini satellites, donc quand même des gros satellites, hein, qui étaient lancés derrière. Et ce lanceur Soyouz était assez exceptionnel. J'ai découvert que là, on lançait le premier satellite, donc le lanceur Soyouz arrive sur une orbite, il décroche le premier satellite, et après il se tourne, il en décroche un, il se retourne, il en décroche un autre.
Ah ouais.
Ah oui, oui.
Ah, je savais pas que les étages supérieurs pouvaient faire du changement de direction. Pas mal.
Ouais,
ils sont agiles et après ils font un daily scrum. Faut-il une autorisation pour envoyer un satellite? Est-ce qu'il y a une gouvernance, je vais dire, spatiale pour en envoyer un ou pour décider de l'orbite sur laquelle on l'envoie?
Ouais. En général, bon, ça va être comme un accord avec l'intervenant lanceur ou l'intermédiaire lanceur. Mais il y a des grosses institutions qui mettent des restrictions. Mmh. Donc, le satellite, il ne faut pas qu'il soit trop petit, si c'est un satellite américain, parce que le NORAD américain qui observe tous les objets artificiels, ils ont des capacités limité à suivre tous les objets. Nord-Ouest américain, une grosse antenne du NORAD qui capte tous les objets. Donc c'est pratique parce qu'on sait où sont les choses et puis on peut faire aussi la restitution d'orbite, donc savoir où est le satellite exactement. Mais il y a ces pocket cubes, donc c'est des CubeSat de 5 cm de côté. Et les pocket cubes, donc c'est vraiment ça tient dans des poches de jeans américains. Donc 5 cm de côté, c'est quand même pas tout petit, hein, mais ils autorisent plus le lancement de ces satellites parce que ça fait trop d'objets à gérer. Donc il y a ce genre de restrictions, puis après il faut vraiment que le satellite passe tous les tests de validation et les accords de radiocommunication aussi.
Combien ça coûte de lancer un CubeSat? D'après ce que j'ai compris, c'est pas vraiment le volume que tu paies, mais c'est plus le poids.
C'est le poids, exact. Oui, le volume, je pense que tu as payé la place dans le dernier étage de la fusée quand même. Mais c'est plus le poids, effectivement. Ça peut coûter très cher. Je sais que pour les lancements là, vers la Lune, c'était 30 millions, juste un lancement vers la Lune. Bon, c'est pas non plus un truc très léger que tu envoies quand tu vas sur la Lune, mais... T'évites de payer le lancement, en gros, quand tu fais un lancement de CubeSat. Sauf si c'est une mission commerciale, tu sais que tu vas faire du bénéfice dessus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un accord européen, un accord international. C'est vraiment une opportunité qu'ont les universités de lancer un CubeSat. Donc pour l'éducation, quoi.
Et est-ce qu'il y a des taxes supplémentaires, genre taxes aéroportuaires? J'ai entendu dire que lancer un satellite était soumis à une redevance.
Ah, c'est possible. Je suis pas vraiment dans ce domaine. Je sais qu'il y a des histoires d'assurance aussi. Parfois, il y a des assurances qui coûtent plus cher que de lancer un deuxième satellite. Du coup, il y en a qui prennent pas d'assurance. Mais c'est aussi l'assurance que le satellite retombe pas sur une zone habitée, ce genre de choses. Mais les taxes, je suis pas au courant.
D'accord. Et sur une assurance, donc, puisqu'on en parlait, on fait comment? On va voir son agent d'assurance habituel pour sa multirisque habitation ou ses gros contrats, des fois, qui sont imposés par le lanceur ou ce genre de choses?
Ouais, c'est des gros contrats. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est ficelé. Je pense que tout est possible. Des fois, je vais à des conférences ou des sommets big data analyst et je parle de ce que je fais pour l'espace. Et il y a des gens de grosses boîtes d'assurance qui viennent me voir. Ils sont curieux, quoi. Ils veulent savoir comment ça fonctionne vraiment, parce qu'en fait, ils sont en train d'assurer justement des lancements satellites ou des lancements d'objets spatiaux, et ils veulent savoir qu'est-ce qui crée le risque, en fait. Et ils étaient super intéressés de savoir qui a des outils d'analyse, parce que justement, tu diminues le risque si tu sais en avance ce qui va se passer, si tu peux prédire ta télémétrie. J'ai découvert un monde. Il y a un monde de l'assurance assez incroyable sur l'espace.
Avec le rachat des données et tout ça en interne, c'est assez impressionnant, je vais dire, le monde de l'assurance de ce côté-là sur la gestion de la donnée.
C'est vrai, c'est vrai.
Pour en revenir au CubeSat, quelle est la durée de vie?
Alors, ça va de 0 seconde à 25 ans.
J'en étais sûr. Il y en a qui ont duré 25 ans, vraiment?
Alors, c'est plutôt théorique ou technique. Le satellite dont tu parlais, d'AMSAT, donc il a déclaré hors service, mais il a été retrouvé plus tard. Mm-hmm. Donc, l'électronique qui fonctionne toujours, qui émet, mais elle n'émet pas vers la Terre ou elle n'émet pas au bon endroit. Donc, c'est juste dur à capter.
Plus un problème de batterie. Il y avait deux pannes, si je me souviens bien. Mais du coup, les CubeSat, on a une idée à peu près de leur durée quand ça fonctionne?
Quand ça fonctionne, c'est de l'ordre de quelques années. Je pense que ça va de quelques mois à quelques années. Ouais. Je n'ai pas vraiment entendu parler de CubeSat de 10 ans ou ce genre de choses, quoi.
Et puisqu'on parlait de déchets, justement, est-ce qu'ils restent à terme en orbite? Est-ce qu'ils deviennent des déchets ou est-ce que ça retombe? Les satellites avec moteur sont balancés hors orbite vers l'espace profond, si je me trompe?
Ouais, il y a quand même un peu de responsabilité sur les lancements, hein. Les CubeSat, ils sont lancés en orbite basse en général. Donc une orbite basse, elle va durer un certain temps, le satellite va ralentir naturellement et va retomber sur Terre, mais ça peut durer jusqu'à 25 ans. Donc c'est costaud quand même. Donc la gestion des déchets sur les CubeSat, c'est plus ou moins comme ça qu'elle est faite, c'est une gestion un peu passive. Mais sur les gros satellites maintenant, il y a de plus en plus de réglementation sur il faut avoir au moins une plaque comment t'appelles ça, pas d'amarrissage mais une plaque d'accroche où tu vas avoir un autre objet qui va venir et qui va s'accrocher sur ton satellite pour le récupérer et le descendre.
Ah, en clair, un anneau de remorquage, quoi.
Ouais, c'est ça. Ta boule à l'arrière, là. C'est ça. C'est vu comme ça. Mais il y a vraiment, j'ai vu quand j'étais à l'ESA, il y avait une conférence sur la gestion des déchets, parce qu'il y a un nouveau département qui s'est développé, donc le Space Situation Awareness, qui gère justement les déchets. Et il y avait vraiment, c'était international, donc t'avais japonais, américain, chinois, t'avais tout le monde qui était là, et il y avait les posters des idées, il y avait de tout. Il y avait du filet pour récupérer au grand bras avec la cuillère au bout, jusqu'aux trucs assez surprenants que j'avais pas vraiment pensé. C'est le freinage magnétique. Donc tu vas juste laisser tomber un grand câble qui réagit au magnétisme et qui va ralentir sur le magnétique terrestre et qui va juste tirer ton satellite vers le bas. Donc y a des trucs surprenants. C'est ce que j'appellerais les dispositifs actifs de gestion des déchets.
D'accord. On est surtout resté dans l'orbite basse et un petit peu en géostationnaire. Peut-on aller au-delà de l'orbite terrestre avec un CubeSat? Et si oui, quels en ont été les usages?
Et oui. Donc il y a une paire de CubeSat là, qui est en route vers Mars, si je me rappelle bien. Mais je crois qu'il y a au moins deux missions hors orbite terrestre qui sont parties plus loin. Il y a aussi des projets de missions... Et vraiment un peu poisson pilote, si tu veux, là. Le poisson pilote qui suit le requin pour poisson pilote, il mange les restes, mais là c'est plus pour voir si le requin va bien, quoi. Donc t'as une grosse mission qui va partir avec un ou deux ou plusieurs CubeSat autour pour observer de l'extérieur ce qui se passe sur la coque extérieure ou ce genre de choses, parce que c'est dur d'avoir des capteurs sur vraiment ce qui se passe à l'extérieur à moins de vraiment surcharger ton spacecraft. Mais si t'as un élément extérieur un peu plus intelligent qui peut se balader autour, c'est vraiment pratique. Donc ça se fait, c'est en projet, il y a plusieurs projets et un des éléments décisifs pour ça c'est vraiment la propulsion. Donc dans un CubeSat t'as pas vraiment de place pour mettre des gros propulseurs. Donc quand ils sont autour de la Terre, c'est vraiment des propulseurs pour se réorienter ou changer d'orbite tout doucement, mais vraiment pour se propulser pour aller jusqu'à Mars, c'est un peu plus compliqué. Faut être lancé, quoi.
Tout à fait. Redouane, merci d'avoir passé ce moment avec nous, de nous avoir fait découvrir un peu cet univers de petits cubes, gros comme un Rubik's Cube, et qu'on envoie là-haut, tout là-haut.
Je voulais juste partager que c'est la troisième édition du Open Source CubeSat Workshop qu'on organise à Athènes cette année, donc organisé localement par la Libre Space Foundation, qui était dedans depuis le début. Première édition, c'était en 2017. On a eu Team Indus, donc c'est la team du Google Lunar XPRIZE qui était venue nous voir. On avait même eu PT Scientist, donc c'est la team qui participait au même concours. C'est la team allemande. L'année dernière, donc en 2018, on a eu Bruce Perens qui est venu nous rejoindre, donc amateur radio et aussi créateur du Open Research Institute. Donc c'est le gars derrière BuzzyBox. Et derrière les premières rédactions des licences open source. Donc, c'était vraiment cool de l'avoir. Et cette année, donc, pas de guest speaker parce que tout le monde est guest. On va vraiment avoir cette atmosphère de discussion qu'on arrive à avoir. Et je pense que c'est comme ça qu'on attire du monde. On a toujours une trentaine de pays qui viennent nous rejoindre. Une centaine de personnes, voire plus cette année-là, parce qu'on a un endroit plus grand. Et c'est vraiment l'endroit pour construire l'espace de façon open source.
Il y aura de la captation de ces conférences ?
Exact. Ouais, on va les capter, on va les distribuer. Ouais.
Ben ça, c'est cool. Red, merci beaucoup.
Merci à toi, Daskritch. Et à plus.
À plus.